France Bleu RCFM. France Bleu.
Yeah. Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
À tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et nous sommes ce soir avec Mickaël Andréani. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Mickaël, vous êtes à Ajaccio, ça tombe bien puisque nous allons parler d'un événement qui se déroule à Ajaccio jusqu'au 7 juillet. Un événement qui s'adresse en particulier aux enfants, mais en réalité au plus grand nombre, puisqu'il s'agit d'une exposition au Musée National de la Maison Bonaparte, à Gaza Bonaparte. C'est à Ajaccio, évidemment, et c'est au tour de l'enfance de Napoléon. Et si pour en parler, nous recevions le conservateur général du patrimoine et donc le conservateur en chef de la Maison Bonaparte, Jean-Marc Olivesi. Bonsoir.
Bonsoir Marie.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir, Jean-Marc.
C'est toujours un plaisir de venir dans votre émission.
Eh bien voilà, ça y est. Une fois que nous avons échangé nos politesses, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet avec cette exposition extrêmement ludique. J'ai le sentiment que là, non seulement vous allez attirer les scolaires, mais aussi les adolescents et puis les plus grands qui n'ont pas oublié le petit enfant qu'ils ont été un jour.
Oui, il y a trois supports pour cette émission, pour cette exposition. Il y a des bandes dessinées, il y a des Playmobil et il y a un petit film que nous a prêté le musée de la Corse. Tandis que les bandes dessinées et les Playmobil, nous les avons travaillées avec des artistes.
Alors, il y avait évidemment l'idée de parler de l'enfance de Napoléon et de l'environnement. Et qui dit enfance vous a donné envie de trouver des supports ludiques?
Oui, c'est-à-dire que vous savez, nous les conservateurs, on travaille beaucoup. Alors quand on a des tableaux ou des sculptures, on est content. Mais là, justement, dans le cas des Bonaparte, il n'y avait pas tellement de tableaux ou de sculptures lorsqu'ils sont tout petits. La famille n'est pas encore célèbre, c'est pas une famille très riche. Il n'y a pas tant que ça de peintres, portraitistes à Ajaccio. Et donc on avait peu d'images. Alors on a fait ce que se faisait déjà au 19e. Hein, on a été un peu faussaire, mais ne vous inquiétez pas, les autres l'avaient fait avant nous. On a un portrait, par exemple, de Laetitia à la Maison Bonaparte qui a été probablement réinventé parce qu'elle est rajeunie, elle est jeune mariée, d'après un portrait où elle est représentée en gloire comme mère de l'empereur. Et donc, ils avaient fait un morphing à l'envers pour la rajeunir. Et ben, c'est ce qu'on a fait avec Charles Chanfaragne, le dessinateur de bande dessinée. On a retrouvé, on a rajeuni Charles, on a rajeuni Laetitia et tous les membres de la famille.
Alors, il y a cette façon de faire qui avait déjà été utilisé, c'est-à-dire imaginer le portrait d'eux et le montrer, mais il y a aussi la bande dessinée, mais le vrai support, c'est-à-dire pas uniquement des planches, une bande dessinée qui a été publiée.
Oui, oui, oui.
Et qui est dans les mains de Mickaël.
Voilà, on peut l'avoir par webcam.
Pas les auditeurs, hein, malheureusement.
Voilà, mais... Casa Bonaparte, Ajaccio, l'enfance de Napoléon, paru aux éditions Albiane.
Alors, au lieu d'avoir un catalogue, en fait, d'exposition, c'est une bande dessinée, pour le coup.
Oui. Oui, oui, mais comment dire, en même temps, on retrouve l'usage du catalogue. Le catalogue, il sert à pérenniser tout ce qu'on a trouvé lorsqu'on a monté pendant l'exposition.
Ouais.
Ben là, c'est pareil, finalement. Sauf que au lieu d'avoir des notices d'objets, on a des notices de personnages sous forme d'une planche qui raconte l'histoire de la tante Gertrude, de Mina Nassavir, il y a de la nourrice Camilla, qui étaient tous des personnages hauts en couleur. Hein.
Alors, vous le disiez, la famille Bonaparte n'est pas encore assez célèbre lorsque Napoléon est petit pour faire des commandes de tableaux ou pour que l'on trouve beaucoup de papiers, de lettres et de témoignages. En revanche, on a quand même quelques témoignages puisque je vois des extraits de lettres de par-ci par-là qui nous indiquent ça, on l'a pas imaginé, qui nous indiquent ce que faisait Napoléon comme jeu, ou c'est complètement imaginé?
Alors, on a plusieurs sources, mais elles sont postérieures, en
oui,
fait.
Bien hein. sûr.
Pendant l'enfance, il y a très... Alors oui, par exemple, le témoignage de la comtesse de Boigne, la fille du marquis d'Osmond, là, c'est pendant la jeunesse de Napoléon. C'est ton père qui vient en Corse et il raconte le séjour qu'il a fait chez les Bonaparte. Mais même ça, c'est publié après.
Oui.
Et donc, on a travaillé, par exemple, lorsqu'on travaille sur Napoléon à Sainte-Hélène, on voit qu'il s'est livré à Anton Marc et au docteur Anton Marc, parce qu'il était corse comme lui, et on a le sentiment qu'il était beaucoup plus à l'aise et qu'il a raconté beaucoup plus de choses qu'avec les autres.
Mmh.
Et puis, il y a par exemple aussi ce journaliste américain, Andrew Lee, qui va voir Laetitia. Napoléon est déjà mort, hein, il est mort en 1821. Et là, le journaliste passe dans les années 1830-31 à Rome, il va voir Laetitia, et il lui pose des tas de questions. Et c'est comme ça qu'on sait que, par exemple, bon, Napoléon, il a quand même voulu embellir un peu sa vie. Hein. Il dit oui, je suis né sur un tapis qui représentait l'Iliade et l'Odyssée, c'est pour ça que j'aimais les combats. Et alors, le journaliste américain demande à Laetitia, ah oui, c'était vrai et tout. Et Laetitia qui répond, il n'y avait pas de tapis dans nos maisons corses, encore moins en été qu'en hiver. Donc là, et c'est une légende qu'avait repris aussi Stendhal, par exemple. Hein. Donc là, on a mis une grande planche qui représente le petit Napoléon qui rêvasse dans son petit berceau, et au-dessus, il y a Achille, tous les héros de l'Iliade et de l'Odyssée. On voit qu'il les invente. Hein. Donc voilà, ça nous a permis, à partir de ces sources que nous avions sur l'enfance, d'essayer de mettre un peu d'ordre. Hein. Qu'est-ce qu'on pouvait croire? Qu'est-ce qu'on remet en question? Et puis il y a des fois où, franchement, on n'en sait rien. Mais la plupart des documents, ce qu'il y avait de bien, c'était qu'ils sont intéressants parce que il y en a certains qui annoncent la destinée exceptionnelle de ces Bonaparte, et puis il y en a d'autres où on voit la vie d'un petit gamin d'Ajaccio, mais pas tellement différente de celle des, peut-être pas des gamins d'aujourd'hui avec leurs tablettes, leurs iPhones, mais peut-être
mais d'un gamin
d'il y a 20 ou 30 ans.
Bien sûr. Alors, évidemment, il y a ces textes tardifs, souvent anecdotiques, que vous avez utilisés, et puis vous les avez rapprochés de l'histoire de Corse à cette époque-là.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des personnages qui interfèrent. Il y a par exemple Pascal Paoli, parce que Paoli était un habitué de la maison. C'est lui qui nous raconte, par exemple, dans une lettre que la petite Pauline, qui était déjà ravissante, hein, elle va devenir une des plus jolies femmes de l'Empire, que la petite Pauline adorait recevoir les invités de ses parents et faire les honneurs de la maison. Ça, c'est Paoli qui nous le raconte, par exemple. Hein. Donc tous ces personnages qui étaient, je le disais, autant couleurs, on a essayé de leur donner vie. Et à travers des petites histoires où on les voit en situation. Et en même temps, je vous dis, c'est amusant parce que, par exemple, la grand-mère, Mina Nassavir, c'est une vraie grand-mère de Corse, à la fois très attentive à ses petits-enfants et en même temps, qui peut être à certains moments très sévère et à certains moments tout leur passé. Hein.
Je vous propose d'écouter une soprano d'origine corse, puisqu'elle est née à Cargèse, elle est morte à Ajaccio, c'est Marta Angelic. Elle chante ici Napoléone.
Per l'eternità è scritto. Tutto nome in cielo e terra, per l'eternità.
documents, Martha Angelic. Merci, parce que c'est grâce à vous qu'on peut écouter ce genre de choses. Alors, il faut écouter les fous d'opéra, Jean-Marc Olivez. Et puis, c'était évidemment l'époux de Martha Angelic, François Agostini, directeur de l'Opéra Comique de Marseille, qui signait ce morceau. C'est incroyable, non? Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez entendu déjà.
Alors, je connais bien Martha Angelic, ouais. Je l'ai entendu, mais alors cette chanson, jamais.
Jamais, hein,
c'est une découverte.
Ouais, c'est une curiosité. Alors, vous êtes notre invité pour nous parler de cette exposition qui sera visible jusqu'au début juillet, on va dire 7 juillet, me semble-t-il.
Oui.
Puisque ça s'adresse évidemment aux enfants de Corse, et d'ailleurs qui viendraient en vacances, et puis au reste, hein, aux grands aussi, hein, l'enfance de Napoléon. Cela se passe à la Casa Bonaparte, et on parlait de différents supports. Il y a la bande dessinée, des planches de bande dessinée, ainsi que des portraits inventés. Et puis, il y a ce plateau tournant avec des scénettes reconstituées avec des Playmobil. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien là, c'était des scénettes qu'on n'avait pas pu mettre dans les planches qui racontaient l'histoire de la grand-mère, de Laetitia, de Charles, et en même temps qui étaient vraiment intéressantes par rapport à la structuration du personnage de Napoléon, et on les a mis sous forme de Playmobil. Donc il y a un plateau tournant avec 9 scénettes, on donne les textes, il y a une bande de son aussi qui raconte ce qu'il se passe sur ce plateau, et ça permet de connaître des épisodes de l'enfance de Napoléon, comme son premier amour lorsqu'il est tombé amoureux de la petite Giacominette, et que tous les gamins de la vieille ville disaient Napoléon et Dimitza Galzet et Falamor et contre Giacominette, parce qu'il avait toujours ses bas qui lui tombaient sur ses pieds, et Falamor évidemment ça veut dire fait la cour,
bien sûr.
Des petits gamins.
Bien sûr. Alors, vous n'avez pas peur que les Playmobil soient subtilisés, que les enfants jouent avec? Comment vous gérez ça, là?
Alors, on l'a traité comme une vraie scène, c'est-à-dire qu'il y a une mise à distance, qu'on les voit très bien, qu'ils sont éclairés avec des projecteurs.
D'accord, on ne peut pas trop s'approcher.
Voilà, on peut pas, mais on est très près. Néanmoins, on est très près. Et alors, Frédéric Pierrot, qui les a réalisés lorsqu'il fait son aporama, il met Dark Vador, il met Batman au milieu, et puis il dit aux enfants, cherchez l'intrus. Là, il n'y a pas d'intrus, mais enfin, les enfants peuvent chercher des personnages des différentes scènes.
Qu'est-ce qu'il y a avec les Playmobil à Ajaccio, Michael Andréani?
Ah, écoutez, il y a une vraie passion qui est en train d'être.
Il y a un engouement, parce que j'ai entendu parler éventuellement d'un musée Playmobil ou Lego ou je sais pas
c'est
quoi.
C'est avec eux, c'est avec
voilà,
eux.
C'est, ah, ça. c'est lié.
Expliquez-moi ça alors, tous les deux, ou l'un ou l'autre.
Allez-y, Jean-Marc.
Ah ben, vous savez pas, vous en savez rien, c'est ça, tous les deux.
Si, mais je préfère laisser parler les experts quand même.
C'est-à-dire qu'on a, alors finalement, des gens vont dire, on a travaillé comme quelques professionnels du quartier, parce qu'on est tous dans la vieille ville.
D'accord.
Donc il y a Valérie Santarelli qui a le magasin Empire, avec lequel on a fait les quilles qui représentent les différents personnages
oui,
de la famille Bonaparte.
Mm-hmm.
Après, il y avait Charles Chanfaran qui travaille avec Valérie, qui nous a fait les bandes dessinées. Et un peu plus loin, 2 rues plus loin, il y avait Frédéric Pierrot qui présentait son aporama.
D'accord.
Et j'étais allé voir, ça m'avait tellement plu. Et on lui a passé commande. On lui a dit, voilà, on monte un projet. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous représenter? Dans son aporama, il y a le sacre, il y a des batailles.
D'accord.
Et là, on lui a demandé de nous représenter les 9 scénettes que j'évoquais tout à l'heure.
Et c'est ouvert au public. On peut se rendre sur place. Je ne parle pas de ce qu'on va voir à la Maison Bonaparte, mais du travail de Frédéric Pierrot.
Pendant l'été, oui.
C'est ouvert
tout le temps.
D'accord.
Et nous, l'exposition, alors, on l'ouvre là du 5 avril au 7 juillet pour les touristes, pour les Ajacciens, pour les Corses. Mais après, on va fermer pendant l'été et ensuite, on va rouvrir à la rentrée et les enseignants pourront réserver l'exposition gratuitement,
bien sûr,
pour une demi-journée et
très
emmener
bien
leurs élèves.
Alors, expliquez quand même à nos auditeurs, parce qu'on n'est pas peu fiers, à quel point cette maison, ce musée national est visité. Il y a un véritable engouement depuis des années et qui ne cesse d'être croissant, si je ne m'abuse.
Alors, on est arrivé à 90 000 visiteurs cette année.
C'est formidable.
Ce qui fait le musée le plus visité de Corse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui descendent des bateaux de croisière et qui veulent voir une chose à Ajaccio,
oui.
C'est la maison Bonaparte. Hein, parce que
c'est
ancien, vous savez. Alors, aujourd'hui, ce sont des touristes, ce sont des croisiéristes, ce sont des Néo-Zélandais ou des gens du Honduras. Et on a beaucoup d'Australiens. Aussi, par exemple, on a beaucoup de Japonais, de Coréens. Heureusement, grâce à la réunion des musées nationaux, on a des audioguides en chinois, en japonais, en russe. Bon, ça nous aide beaucoup hein, pour
bien
tous
sûr.
Ces publics. Mais également, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un intérêt qui est général par rapport à Napoléon. Il y a un intérêt global. Et si on ne reçoit pas plus de visiteurs, c'est aussi pour des questions de sécurité. Parce que comme tout établissement recevant du public, quand on arrive à tant de personnes dans le musée, on ne peut plus accepter des personnes, vous voyez.
Et puis c'est une maison en pleine ville, voilà, donc c'est compliqué, hein. On n'est pas dans une structure moderne avec un parking, et voilà, et j'imagine que vous êtes obligé de limiter les entrées, vous pouvez pas...
Alors heureusement en 2004, ouais. les musées nationaux ont acheté la maison Kourou qui était de l'autre côté. Ça nous a permis de créer un escalier,
d'accord.
Une salle d'expo et ça, comme on avait deux escaliers, on a pu accueillir plus de visiteurs. Mm-hmm. Mais sinon, on était très limité par le nombre à cause du seul escalier, par le nombre de visiteurs, mm-hmm. de visiteurs jusqu'en 2014.
Alors le succès de cette maison qui ne date pas d'hier, on va le raconter dans un instant avec Jean-Marc Olivez, a éclaboussé, si je puis dire. Tout le quartier et même toute la ville d'Ajaccio, puisque de plus en plus, on sent bien que les artisans, les artistes et les commerçants travaillent autour de la figure de Napoléon et plus largement des Bonaparte.
Oui. Oui, ça c'est très intéressant de voir que le personnage est réinvesti. Il y a des projets de la ville autour de ces thématiques, hein, des concours et ça marche très bien. Ça marche très bien.
Moi, j'adore parce que, en plus, ça nous permet quand même, je sais pas, moi, de mieux comprendre pour nos enfants notre histoire à travers un personnage. Eh bien, on peut raconter l'histoire de la Corse et ça, c'est formidable. Ça n'est pas que commercial, hein, évidemment.
Alors, ce qui est fascinant avec Napoléon, c'est ça, c'est-à-dire que à la fois il a un destin exceptionnel. Donc, dans l'expo, on montre, il y a une carte de l'Europe et on montre tout ce que gouvernait sa famille. Hein,
tout ce côté international, oui.
Ah oui, c'est impressionnant. Ils sont hyper européens avant tout le monde.
Et
puis de l'autre
temps...
côté, c'est vraiment des gamins ajacciens.
Oui,
hein, dans
ça.
Les petites scénettes qu'on raconte, les bagarres entre les gens de la vieille ville et les gens de la rue Fèche, ça, c'est vraiment l'ADN ajaccien le plus absolu.
Est-ce qu'on cherche à comprendre dans cette exposition comment ce petit garçon lambda, certes issu d'une famille plutôt bourgeoise, a pu devenir un tel personnage de l'histoire?
Alors justement, ces scénettes, elles peuvent être lues à deux niveaux. Soit c'est amusant d'un gamin qui, par exemple, la scénette en Playmobil des Ayacini et des Borghigiani. Mmh. C'était les gens de la vieille ville, enfermés dans leurs murailles, étaient plutôt des fils d'avocats, de notaires, de l'élite ajaccienne, disons. Et les habitants de la rue Fèche, les Borghigiani, c'était des enfants d'artisans ou de pêcheurs. Donc ils étaient plus dans la rue, plus bagarreurs, plus musclés, plus entraînés à la bagarre. Et Laetitia raconte que c'est l'année où Napoléon va diriger les gens de la vieille ville et que là, ils vont gagner. Hein? Donc c'est le petit stratège qui apparaît déjà sous le bagarreur, vous voyez. Donc les scènes presque sont toutes à double sens finalement. Et par exemple la scène aussi avec les mâles c'est Joseph qui raconte ça. Napoléon arrive à Ajaccio, il a plein de mâles. On se dit ah il a ramené des cadeaux pour ses sœurs. Il y a des habits. Non, il y a des livres. Et Napoléon, comme tous les Corses de l'époque, il savait que l'éducation, la formation, c'est ce qui leur permettait de trouver du travail dans le monde entier et de progresser dans la société.
Donc est-ce que c'est sa famille qui lui inculque ça? Est-ce que c'est un héritage de sa famille de savoir que par les livres, par la connaissance, par le savoir, on peut s'ériger vers le monde?
Ah oui, manifestement. Hein. Alors parce qu'il y a plusieurs personnages. Il y a par exemple l'archidiacre Lucien. Quand son père va mourir, c'est l'archidiacre Lucien qui va tenir les cordons de la bourse de la famille, qui va beaucoup les aider au niveau financier. Et on voit qu'il est très attentif à la fois au mariage des enfants de la famille. Il veut des bons mariages qui fassent gagner des terres, des maisons et des sous. Et puis en même temps, il veut qu'ils aient une excellente formation. Hein, ça, c'est les deux axes de développement de la famille.
Et même si on possède des textes tardifs, est-ce que l'on sait si la famille de Napoléon, si les Bonaparte sont admiratifs en regardant, en observant le destin de Pascal Paoli?
Alors, ils sont tous admiratifs. Hein. Charles, le père de Napoléon, rentre d'Italie. Il a fait ses études à Pise et à Rome. Et il rentre d'Italie pour travailler avec Paoli. Mmh. Hein. Et il va être très proche de Paoli. C'est un excellent juriste. Et Paoli va beaucoup... Enfin, il va être au service de Paoli. Il va même écrire des poèmes pour... pas pour Paoli personnellement, mais enfin pour l'État que Paoli représente. Ils vont être tous engagés. Et ce qu'il y a de fascinant aussi, c'est qu'à la fin de sa vie, Laetitia, ce dont elle se rappelle le plus, c'est pas tellement les grandes balles des Tuileries, c'est quand elle était avec Charles à parcourir les et Paoli à parcourir les sommets de Corse.
Notamment à Corté, hein, elle a été notamment à Corté pendant plusieurs années.
Oui.
Donc on peut imaginer que le petit Napoléon entend parler de Pascal Paoli.
Ah oui, ah c'est sûr. C'est sûr. Et puis, alors, Charles et Laetitia appelaient ça les guerres de la liberté. Nous, on dirait les guerres de l'indépendance corse, les guerres de l'État paulien. Eux, ils disaient les guerres de la liberté. Et ils racontent, hein, même à Sainte-Hélène, on voit qu'il se souvient parfaitement de cette période. Et il voit que pour ses, et il est évident que pour ses parents, ça a été une période extrêmement, extrêmement riche, hein.
Mmh. Oui, donc ça donne l'exemple quand même que même sur une toute petite île, on peut devenir un grand homme. Il a en tout cas cette histoire dans la tête. Voilà ce qu'on peut imaginer. Et puis évidemment, après, il aura le destin que l'on connaît. On va s'intéresser à une année toute particulière avec Jean-Marc Olivetti.
Toc toc, c'est son année.
Je vous rappelle qu'à la Casa Bonaparte, et vous pouvez découvrir l'exposition L'enfance de Napoléon, Ajaccio, l'enfance de Napoléon. C'est jusqu'au 7 juillet et sachez, si vous êtes enseignant, cette exposition, vous pourrez la visiter avec vos élèves à partir de la rentrée de septembre 2019. Il suffit de contacter le musée national de la maison Bonaparte voilà, pour vous inscrire. Alors, il y a une année qui est très importante. C'est cette année-là que le musée ouvre ses portes. Mais, puisque ça ne nous arrangeait pas avec Michael André Agne, nous sommes allés 2 ans plus tard. Puisque 1967, c'est l'ouverture de la maison Bonaparte. Mais nous, on a eu envie de parler du bicentenaire de la naissance de Napoléon en 1969. Puisque si l'ouverture de cette maison se fait en 67, c'est bien pour préparer 2 ans plus tard cet événement incroyable. N'est-ce pas, Jean-Marc?
Oui. Et alors, il y avait eu déjà un événement incroyable qui était le centenaire en 1869. L'impératrice Eugénie était venue à Ajaccio et ça avait été un déchaînement d'intérêt. 40 000 personnes étaient venues de toute la Corse pour voir l'impératrice et le prince impérial. Et en 1969, le président Pompidou va venir à Ajaccio. Il y aura toutes les fêtes du bicentenaire et c'est resté dans la mémoire des Ajacciens. Hein.
Bien sûr.
On voit que c'est une date importante et que les célébrations ont été grandioses.
Alors, avant ça, cette maison, à qui appartenait-elle et est-ce qu'on pouvait la visiter ?
Alors, pendant tout le Second Empire, la maison appartient au souverain, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Quand en 1876, Napoléon III va décéder, elle va appartenir à l'impératrice Eugénie, qui va la garder jusqu'à sa mort en 1920. Elle la donne à son héritier, le prince Victor, puisque son fils était décédé, tué par les Zoulous. Et c'est le prince Victor qui en est propriétaire, et il la donne à l'État en 1924.
Il l'habite ou pas du tout, Jean-Marc ?
Ah non, pas non, du non, il n'habite pas du tout.
Et donc la dernière, on suppose, pardon de vous interrompre, oui. On suppose que la dernière personne qui a résidé dans cette maison serait l'impératrice ?
Alors l'impératrice n'y a pas résidé. Quand elle venait à Ajaccio, elle habitait dans son yacht, l'Aigle.
Oui.
Mais il y a une personne qui a résidé jusqu'à assez tard, je crois dans les années 1883, si je me souviens bien. C'était la princesse Marianne, qui était la femme d'un prince Lucien qui vivait en Italie. Et elle a vécu une grande partie de sa vie sous le Second Empire à Ajaccio, sur le cours Napoléon. Et à la fin de sa vie, elle avait moins de sous. Et elle s'est installée à la maison Bonaparte. Et elle était très gentille avec les Ajacciens et très aimé des Ajacciens.
Donc on peut imaginer que cette maison n'a quasiment pas changé en fait au niveau de sa décoration, de sa structure.
Alors il y a eu beaucoup de décorations, hein. Oui. Par exemple les papiers peints sont changés régulièrement. Lorsqu'on lit par exemple Flaubert, il dit que la chambre natale était décorée avec un papier peint gris à points blancs, si je me souviens, l'année d'après. Selon les visiteurs, on voit que ils entretenaient quand même. Hein, surtout sous Napoléon III Eugénie, ils ont fait faire des décors peints à Maglioli, par exemple, et ils ont posé des papiers peints. Donc la maison était très, très entretenue. Et lorsqu'on voulait la voir, en général, c'était pas des groupes à l'époque. Hein. Enfin, il y en avait, puisqu'on a le cas de passagers du Mauritania qui avait remplacé le Titanic comme vaisseau de croisière. Mais en général, ce sont des personnalités qui demandent à visiter. Elles s'adressent aux gardiens. Alors, des fois, elles ont une recommandation de l'impératrice Eugénie, parfois. Non, ils n'en ont pas. Et j'essaye de reconstituer le livre d'or qui a été perdu justement dans les années 20. Et, mais il y a vraiment du beau monde qui est passé à la maison Bonaparte. Hein,
mais en fait, on demandait l'autorisation d'aller la visiter. Comment ça
oui,
se passe?
Ah, et le gardien vous accompagnait et il laissait souvent de très gros pourboires aux gardiens qui les accompagnaient. Et le cas le plus émouvant, je trouve, c'est l'impératrice Élisabeth d'Autriche, ici. Elle vient deux ou trois fois à Ajaccio. Dès qu'elle sort de son yacht, elle file à la maison Bonaparte. Elle se fait enfermer dans la chambre natale et elle médite sur le destin de Napoléon. Et elle dit, mais pourquoi est-il allé chercher une couronne impériale? Parce qu'elle s'était retrouvée avec sa couronne sur la tête, à peine s'était-elle mariée à François-Joseph, et elle se disait, mais lui, il n'en avait pas besoin, c'était pas obligatoire dans son parcours, et il est allé se la chercher. Mais pourquoi, alors qu'elle trouve qu'il a un destin fabuleux, hein, ce chef de guerre, cet homme qui sort d'une petite île qui était à la périphérie de l'Europe, et qu'il va mettre au centre de l'Europe, comme d'ailleurs l'avait fait Pascal Paoli avant lui, tout ça, c'est quand même des aventures extraordinaires. Et ben, il y a des personnages comme Élisabeth d'Autriche, comme le roi Édouard VII d'Angleterre, comme le grand-duc Georges de Russie, comme les écrivains Pierre Loti ou José Bald, il y a beaucoup d'écrivains aussi qui sont venus, hein, ou Flaubert par exemple, qui ont été fascinés par le destin de Napoléon. Et ça commence tôt, parce qu'on sait que par exemple lorsque Lascaz rentre de Sainte-Hélène et qu'il revient en France, il raconte que les soldats de la Grande Armée allaient dans la chambre où était né Napoléon, à Ajaccio, et embrassaient le sol de la chambre.
Et alors, en général, ces personnalités, donc que ce soit des personnalités des lettres, ou bien de la politique, ou de l'histoire, ou des gens comme ça de grandes familles, sont intéressés également par le domaine des Milleli, où ils ignorent que ce domaine existe et a une relation avec les Bonaparte.
Moi, j'ai pas trouvé tellement de visites aux Milleli. Alors, il y en a un qui les emmène, c'est Napoléon. Ouais. Napoléon, lorsqu'il revient de la campagne d'Égypte pendant l'escale d'octobre-novembre 1799, c'est la dernière fois qu'il passe en Corse, il va les emmener aux Milleli chasser. Ça, on en est sûr, on a son témoignage. Mais après, je ne connais pas les témoignages des séjours aux Milleli, qui dépendent de la ville d'Ajaccio, hein, pas du musée
bien
national.
Sûr, bien sûr.
Mais à la maison Bonaparte, on a des témoignages. Par exemple, des vieux Ajacciens me disent qu'ils y ont vu Ava Gardner. Il y a des photos d'acteurs qui sont en train de visiter la maison Bonaparte.
D'accord.
Et on sait par exemple, enfin, des fois quand on lit des livres, chaque fois je prends des notes, que ce soit Boni de Castellane, qui est un des grands dandys aristocrates des années folles, ou des personnages des écrivains, on voit que l'arrêt à la maison Bonaparte lorsqu'on séjourne à Ajaccio était quasiment impératif à cette époque-là.
Bien d'ailleurs, moi, quand je suis venue à Ajaccio, ça a été mon premier arrêt, évidemment. Vous m'avez accueilli chaleureusement. Alors, cette exposition, nous pouvons la voir jusqu'au 7 juillet à Ajaccio, l'enfance de Napoléon. On l'a dit, il y a des supports très ludiques. Donc, cette bande dessinée, ces planches de bande dessinée. Et puis, c'est qui, réalisé par Valérie Santarelli, qui est donc une voisine, Jean-Marc le disait. Et c'est qui sont censés représenter, je crois, la fratrie de Napoléon. C'est ça? Et ils sont, ces personnages sont devant en fait une carte d'Europe.
C'est ça. Alors on les a représentés avec leur visage sous forme de quilles, parce qu'à la fin de leur vie, ils ont été aussi malmenés que des quilles, pour montrer aussi que derrière la gloire, il y a aussi une fin qui est souvent tragique pour certains d'entre eux. Bon, les Bonaparte avaient de grosses fortunes, ils avaient amassé de grosses fortunes. Mais en revanche, Elisa, Pauline sont mortes relativement jeunes, malades. Je pense que c'est aussi par rapport, le contre-coup par rapport à tout ce qu'elles avaient vécu d'extraordinaire. Et ces quilles racontent ça, et elles sont placées devant une carte carte de l'Europe. Et alors sur les quilles, il y a un petit design qui rappelle un peu les maillots de rugby. On voulait les montrer comme les huit frères et sœurs, comme une équipe. Hein. Ils ont un numéro, c'est le numéro de la date de naissance. Par exemple, Napoléon a 1769. Et on voulait montrer comme une équipe, montrer aussi qui était le plus âgé, qui sont les plus jeunes. Et puis chacun avec les territoires sur lesquels il a régné et les alliances qu'ils ont contractées.
Alors, Tino Ross, et ça c'est grâce à Michael Andréani, qui a une discothèque incroyable, a sorti un album au moment du bicentenaire. C'est ça, Michael, avant que
tout je... Tout à fait, oui, Tino Ross qui sort un album.
Mais c'est tout un album ou...
Oui, tout un album. Il y a l'Ajaxienne, il y a même Solenzara dessus, et puis bien d'autres titres. Et on retrouve au milieu de l'album à peu près.
Voilà, merci beaucoup pour cet arrangement.
Avec Regine, oui. Avec la garde républicaine qui accompagne Tino Rossi en instrumental.
Vous permettez qu'on écoute juste un petit bout pour se mettre dans l'ambiance? Allez.
Allez.
La piste quoi, 5-6 de l'album, Michael?
Voilà, on est à peu près dans ces eaux-là.
N'empêche qu'il a dû en vendre beaucoup.
Ah oui, bon, déjà, la discographie de Tino Rossi est particulièrement ample. Et puis, pour l'occasion, oui, je crois que si on se fie aux charts de l'époque, c'était très, très bien placé.
Alors, autre son concernant le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Nous sommes donc en 1969. Ah, il faut quand même rappeler que là, c'est les 250 ans, hein.
Cette année.
D'où cette exposition. Michael, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors, premier son, c'est septembre 69. On est donc un mois après les célébrations du bicentenaire de la naissance de Napoléon à Ajaccio. Il y avait une émission qui s'appelait à l'époque « Ce monde étrange et merveilleux » sur le RTF, qui revenait sur l'événement. Et la journaliste Michèle Demey, de son vrai nom Thomasine, d'ailleurs, fille de résistant, plantait le décor. Écoutez ça.
15 août en Corse, il y a un peu plus d'un mois, Ajaccio était en liesse pour célébrer les fêtes du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Ajaccio, pavoisé de drapeaux mille couleurs, Ajaccio, berceau de l'empereur où tout parle encore de lui, et qu'un humoriste a défini comme n'étant que le souvenir de Napoléon avec des maisons autour. Ajaccio, brillante sous le soleil, était envahie d'une foule bigarrée et pittoresque. Aux cérémonies officielles commémorant le grand homme succédèrent les défilés traditionnels. Et tandis qu'en l'air, la patrouille de France décorait le ciel de traînées tricolores, sur terre, l'armée déchaînait l'enthousiasme populaire. Tout cela offert aux vacanciers dans l'agitation, le bruit et la pluie des gaietés estivales.
C'était étonnant, je disais avec Doumé Mourad qui réalisait cette émission, l'engouement dans la voix de la journaliste. C'est quand même très très taciturne, hein. On sent pas la joie.
Speakerine de l'époque, hein, il y a ce qu'il y a.
Oui, c'était le ton de l'époque. C'était le ton. Voilà. J'aurais été recalé tout de suite. Hein. C'est pas du tout le même ton que cette Corse d'origine, donc.
Ah oui, hein, Corse d'origine, et effectivement, que Michel Thomasine, qui décide d'ailleurs qu'il y a seulement 2 ans, qui a fait une grande carrière à la télévision.
Et c'est néanmoins très émouvant d'entendre ça. Je ne sais pas si ça vous a ému, Jean-Marc.
Ah oui, ça a été un grand moment, ce bicentenaire. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté solennel. Et puis les voix angéliques autour du Dio Salvi Regina. C'est une autre époque pour nous. Hein. On a du mal, mais on sent en même temps que c'était important pour eux.
On sait s'il y avait eu des produits dérivés à l'époque, si on avait pu vendre, moi je ne sais pas, des souvenirs autour de Napoléon. Car juste pour l'anecdote, quand j'étais enfant, je suis né en 1975, mes parents avaient droit chaque Noël à la tasse de Napoléon. Mais si, c'était comme ça, nous. À Bastia, en tout cas, on trouvait ça dans tous les bons tabacs. Est-ce que c'est le cas à Ajaccio?
Oui, maintenant, c'est devenu des collecteurs. Alors, vous avez le service pourpre,
oui,
vous
ça.
Avez le service vert empire, il y a les deux couleurs majoritairement. Et alors, pendant, ça a été délaissé, méprisé pendant des années, et maintenant, ça devient des collecteurs. Quand on en trouve un.
Ah, c'est très à la mode maintenant. Parce
ah
que
oui,
c'est
quand j'étais nommé conservateur de la maison Bonaparte, on m'a jamais reçu un stock que j'ai toujours dans une espèce de mini musée perso.
Ouais. Est-ce que ça date justement de 1969 à votre avis ou bien avant tous ces services-là autour de Napoléon?
J'ai l'impression que dans les années 69-70,
ça a été, la folie,
ça a été
ouais.
l'acmé de ce genre de produits, que ça a été, il y a eu une distribution extraordinaire de ce genre de choses.
Des à coudre, coupe-papier et j'en passe, évidemment de nombreux objets à l'effigie de la famille Bonaparte et de Napoléon évidemment. Autre son que vous avez déniché, Michael Andréagne.
Un petit son d'une trentaine de secondes, un événement exceptionnel, invité exceptionnel, le chef de l'État, Georges Pompidou, qui était donc venu dans la cité impériale. On apprenait d'ailleurs, ça je ne l'ai pas passé, mais dans le commentaire réalisé par les journalistes de l'époque, que Mme Pompidou portait un tailleur Chanel, mais ça c'est pour l'anecdote. Georges Pompidou donc qui prononce un discours, ce jour-là c'était sur la place de Gaulle, place du Diamant. En voici un extrait.
Parti de rien, démuni de tout, il a tout obtenu. Lisant dans l'histoire d'un autre que dès sa jeunesse il ne lui manquait pour régner que d'avoir un royaume, il écrivait ces mots touchants. Ma mère a dit souvent de moi la même chose. Je l'aime à cause de ses pronostics. Mais, parvenu au fait de la puissance, il s'interrogeait. Les princes, dit-on, sont puissants, honorés, et heureux. Ce dernier point n'est point encore clair pour moi.
C'est extraordinaire. Merci Michael Andréagne pour ce son avec une partie du discours de Georges Pompidou qui est absolument magnifique, Jean-Marc Olivesi.
Ah oui, c'est des morceaux d'anthologie. Bon, ah oui. Pompidou est un chef d'État extrêmement cultivé, avec une culture
lettres,
classique.
Oui.
Voilà, il avait, oui. C'était un latiniste, helléniste.
Bien
il
sûr.
Avait une très bonne culture classique, et il était tout à fait à l'aise pour faire ce discours que nous avons, dont nous avons le texte à la maison Bonaparte dans les archives du bicentenaire.
Ah, mais voilà. Alors, évidemment, il faut aussi savoir que cette exposition, elle, va fermer ses portes, mais pas le musée hein, pour cet été, puisque tout à l'heure, vous nous avez dit...
Alors, vous savez, Marie, que nous Oula. Sommes un musée qui a des problèmes à l'envers des autres. C'est-à-dire que nous, on a trop de visiteurs.
Donc, vous fermez.
Donc l'été, on ferme l'exposition.
Oui.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui veut visiter la maison Bonaparte.
Oui.
Et on ouvre les expositions avant saison. Pour les Ajacciens, pour les Corses et pour les touristes d'avant-saison qui sont souvent peut-être plus intéressés par ce type de point de vue. Et on va la rouvrir pour les scolaires à la rentrée.
Donc j'ai bien compris, l'exposition est fermée, mais pas la maison. La maison
non,
sera
non.
ouverte cet
la
été, évidemment.
La maison sera ouverte, bien sûr.
Où peut-on trouver la bande dessinée qui fait office aussi de catalogue de cette exposition?
Alors, elle est éditée par les éditions Albiane, ce qui fait qu'on la trouve dans toutes les librairies de Lille. Mmh. Elles vont être approvisionnées dans les jours qui viennent. Et on la trouve aussi à la boutique RMN du Musée National.
Alors, on a parlé de Charles Chanvarani pour cette bande dessinée. Et vous avez participé également?
Alors, moi, j'ai eu la tâche de faire la trame historique de la bande dessinée. Et ensuite, Charles a fait les dialogues qui sont beaucoup plus rigolos, beaucoup plus marrants. Moi, j'ai fait les textes qui sont en haut, si vous voulez, hein, qui ouais. donnent la trame de la narration. Et après, les gags, tout ça, ça, c'est Charles.
Bon, très bien. Vous êtes très heureux de ce résultat et de cette idée qui est tellement ludique pour les enfants.
Écoutez,
et pour les grands.
On a travaillé ouais. tous les quatre dans une entente. On avait envie d'en faire plus. C'était des expositions comme ça. On en redemande. Hein. Des expositions, c'est des espèces d'épreuves de fond. C'est long, c'est exigeant.
Bien
et
sûr.
Là, bon, on a bossé. Hein. Ça fait un moment qu'on est dessus. Mais on s'est aussi beaucoup amusé. Et j'aimerais que j'aie encore beaucoup d'expos comme ça dans ma carrière.
on pourrait imaginer qu'elle se déplace, cette exposition, ou ça paraît difficile?
Écoutez, les bandes dessinées sont faciles à transporter.
Oui.
Le plateau tournant, il faut quand même un peu d'installation, mais ça peut se faire.
Mm-hmm.
Et non, je pense qu'elle peut se déplacer, hein.
Parce que ce serait intéressant, justement, qu'elle soit itinérante, cette exposition, pour les enfants qui ne peuvent pas se rendre à Ajaccio.
Bien sûr. Non, c'est vrai que passer l'année scolaire qui va arriver, là, oui, une fois, et la présentation, enfin la réservation, comme nous l'évoquions, par les enseignants, sincèrement, si une institution souhaite l'accueillir, mm-hmm, on est très disposé. La Maison Bonaparte, on a fait tourner des expos à Porto Vecchio, à Ghisonaccia, et donc
pour
celle-ci aussi.
C'est pour ça.
On serait parfaitement disposé.
Et puis ça me permettrait peut-être de comprendre une fois pour toutes qui sont exactement les frères et sœurs, sans les confondre, et savoir qui a fait quoi et qui s'est marié avec qui, grâce au qui de Valérie.
Mais ça, vous allez le trouver aussi dans la bande dessinée. Hein.
Voilà,
toutes les infos dedans aussi.
Dans la bande dessinée également. Les projets pour la Casa Bonaparte, pas de changement de décor, de papier peint ou de meubles?
Alors cette année, on a fait un travail archéologique, c'est-à-dire qu'avec Marie-Lise de Castelbajac, Marie-Lise a cherché, on a enlevé le tissu qui a été posé, nous le savons, sous le Second Empire, pour voir si on trouvait des choses qui étaient là avant, et on a trouvé le décor tel qu'il était. C'est un décor tout simple, c'était un joli blanc qui était posé sur les murs, on a trouvé le décor qui était placé sur les murs de la maison, et qui correspond à une hypothèse qu'avait fait Monsieur Martinet, et un historien d'Ajaccio, comme quoi, par exemple, la chambre de Laetitia était divisée en deux pièces. Là où nous avons la chambre natale, il y avait, jadis, il y avait deux pièces différentes. Donc vous voyez, nous faisons de l'archéologie, nous aussi, même s'il ne s'agit que du 18e siècle, on fait de l'archéologie au sein de la maison, et on trouve des choses, on trouve des nouvelles, on confirme des informations.
Vous l'aviez déjà fait, d'ailleurs, ce type d'expérience et ce travail d'archéologue, entre guillemets, pour retrouver pareil, les tapisseries ou en tout cas la couleur des murs, c'est quelque chose que vous avez déjà fait à la Maison Bonaparte.
Oui, mais là on touche à quelque chose de sacré, à la chambre natale, c'est le Saint des Saints. Je vous dis, c'était à la fin de l'Empire, les soldats venaient embrasser le sol de cette pièce et l'impératrice Élisabeth d'Autriche venait méditer sur le destin de Napoléon. C'est quand même, quand on entre dans cette pièce, ça fait un certain effet quand même.
Hein. Il fallait que vous vous sentiez enfin chez vous pour vous permettre cela, Jean-Marc Olivet, au bout de toutes ces années. Vous ne pouviez pas auparavant y toucher, mais maintenant vous pouvez. Et le Jean-Marc Olivet, écrivain, alors?
Eh bien, là, pour l'instant, je n'ai pas sorti de nouveau roman, ouais, mais Salomé aux Enfers a eu un succès vraiment que je n'attendais pas.
Retentissant.
Je suis très content. Et ça m'a fait très plaisir. Et c'est vrai que ça me donne envie d'écrire, mais bon, là, j'avais tous ces projets aussi à mener pour la Maison Bonaparte. Tout ça prend pas mal de temps, quand même.
Mais lorsqu'il y a un accueil comme celui-ci pour un roman, c'est très encourageant. On a envie de recommencer, j'imagine.
Oui, mais quand je vois le boulot que ça m'a demandé. Et puis en plus, ça c'était professionnel. Hein. Ouais. Je ne voulais pas faire un roman sur ma période professionnelle, j'allais
d'accord
dire.
Hein.
Donc j'ai travaillé sur la Shoah, le ghetto de Varsovie, le Auschwitz. Ouais. Et donc ça voulait dire qu'il fallait que je travaille autant que je travaillais pour mon boulot, il fallait que je fasse le même boulot pour mon roman.
Ah oui, c'est ça.
Donc je ne ferais pas ça tous les jours. Hein. Là, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'étais content, hein. J'étais
bien
vraiment
sûr
content. Et de l'écrire, l'écriture c'est une joie sans égale, hein. J'ai adoré ça. Et puis la réception par les lecteurs, ça a été très chouette aussi.
Et oui, vous devriez écrire sur l'enfance de Napoléon, puisque du coup vous avez beaucoup travaillé là-dessus, histoire de ne pas trop vous diversifier, pour ne pas être épuisé à la fin de l'année, Jean-Marc Olivet. Si vous avez envie d'aller visiter cette exposition, un plateau tournant, 9 scénettes de l'enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisé par Frédéric Pierrot avec des Playmobil, des silhouettes des frères et sœurs de Napoléon qui permettent de les identifier, de les caractériser les uns par rapport aux autres face à une carte de l'Europe, mais aussi cette bande dessinée, une exposition qui est destinée aux enfants des écoles, mais pas seulement, aux grands également, à découvrir jusqu'au 7 juillet. On ne peut plus s'inscrire, là c'est trop tard, ou les écoles peuvent encore s'inscrire?
Ah oui.
Il y a encore des places
pour la rentrée, oui.
Mais pas pour la rentrée avant le 7 juillet, là c'est fini.
Là, pour l'instant, il n'y a pas d'inscription. D'accord. Hein, c'est vraiment, on vient comme ça. Et les inscriptions se feront à partir du 1er septembre.
D'accord.
Là, il faut nous contacter et on va inscrire les classes. Mais là, c'est pour... tout le monde peut venir. Hein.
D'accord.
C'est gratuit pour les moins de 26 ans. C'est vraiment ouvert à tous.
Voilà, donc ça n'est qu'à partir de septembre que les scolaires pourront organiser leur sortie. Mais là, c'est ouvert à toutes et à tous et gratuit pour les moins de 26 ans. Michael, quelle chance. Et...
Je n'ai pas assez l'âge.
À peine. Merci.
À peine, quand même, de 3 ans presque.
Merci, on va tout savoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc. C'est toujours un bonheur de vous accueillir. Et puis, allez voir cette maison Bonaparte, parce qu'il a raison, Jean-Marc. Il se passe quelque chose. Quand vous pénétrez dans ce lieu, c'est tout à fait particulier. Et voilà, et ils font un travail remarquable. Et puis, comme ça, vous pourrez aller découvrir cette exposition. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir du 7 juillet, l'expo sera fermée, mais la maison restera ouverte. Donc, dépêchez-vous. Et puis après, il faudra attendre septembre. Quant à Michael, on vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal, pour votre émission. Je vous remercie, Michael.
Merci à vous, Marie.
Et je vous dis
toujours un plaisir.
Et je vous dis à tout à l'heure. Et puis, nous, on se retrouve demain à 17h pour Toc Toc. Merci, Jean-Marc Olivez. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci à Domé Mourati et Stéphane Casalonga qui réalisaient cette émission.
RCFM.